Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler des aventures d'une famille qui a eu lieu, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Je vais vous parler de Star Wars.
Ah, c'est bon, je vous ai trouvé.
Quentin, coupe la musique. Excusez-moi, mais là, on vient de commencer l'enregistrement d'une émission.
Bah oui, Star Wars, c'est pour ça que je suis là.
Bah, c'est-à-dire que...
Écoutez, moi je bite rien à Star Wars, machin, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir directement, et comme ça, si j'ai des questions, je pourrai avoir les réponses tout de suite.
Ah bah non, 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 ça marche pas comme ça, je suis désolé.
Pourquoi ? Maintenant que je suis là, je dérange personne.
Bah si, moi déjà. Et là, je vais enregistrer une émission de radio. Je ne prévois pas de taper la discute autour d'une table.
C'est pas ce qu'on est en train de faire, là ?
Bref. Vous pouvez pas rester là.
Allez, s'il vous plaît, je promets de rester tranquille et de ne pas poser trop de questions.
Quoi ? Ah bah non. Si vous restez là, vous la fermez. Je veux pas entendre un mot. Éteignez votre portable.
Bah pourquoi ?
Éteignez votre portable.
Bon, d'accord.
Bon, on reprend. Je vais vous parler de Star Wars. Star Wars est une saga cinématographique de 9 films sortis entre 1977 et 2019. Dans le premier épisode, La Menace Fantôme, nous faisons la connaissance de deux chevaliers Jedi, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Ils interviennent en tant que médiateurs dans un conflit qui
Mais elle est où, Princesse Leia ?
Non mais sérieux, je vous ai dit de la fermer.
Elle est où, Leia ? Normalement, on la voit dès le début du film.
Ok, vous parlez de l'épisode 4, celui de 77. Moi, je parle de l'épisode 1, sorti en 1999.
Comment ça ? Le 4 est sorti avant le 1 ?
George Lucas, le créateur de Star Wars, a écrit une histoire qui se déroulait en 9 épisodes. Il a préféré commencer par le numéro 4, plus facile à vendre au studio et moins compliqué à réaliser avec les moyens de l'époque. Je commence donc dans l'ordre chronologique et vous la fermez.
Ok, c'est bon.
Donc, un conflit qui oppose la reine Padmé Amidala, dirigeante de la planète Naboo, et la Fédération du Commerce. Les chevaliers arrivent au moment où la Fédération envahit Naboo. Ils parviennent à extraire la reine de justesse et fuient la planète directement. Quoi ?
Extraire comme une dent ?
Vous avez quel âge ?
Oh, c'est bon, si on peut plus rire.
Bon. Padmé et les chevaliers s'envolent en direction du Coruscant. Mais leur vaisseau subit une avarie et ils doivent se poser sur la planète Tatooine pour réparer. Sur place, ils feront la connaissance d'un petit garçon particulièrement doué qu'ils vont prendre sous leur protection.
Anakin !
Quoi ?
C'est bien Anakin le petit garçon.
Oui, mais fermez-la, bon sang ! À la fin de l'épisode 1, la Fédération est battue et Naboo libéré. Vient ensuite l'épisode 2.
Quelle originalité !
L'attaque des clones, si je peux finir. L'action se déroule 10 ans plus tard. Anakin est maintenant un Padawan en équipe avec Obi. Qu'est-ce que vous foutez avec votre téléphone ?
Je cherche Padawan.
Un Padawan est une sorte d'apprenti Jedi qui accompagne un chevalier Jedi pour faire sa formation.
Ok, merci.
Et je vous ai dit d'éteindre ce foutu téléphone.
Pourquoi ? Vous avez peur qu'il se mette à C'est bon, je l'éteins.
Le Jedi et son Padawan ont pour mission de protéger Padmé Amidala qui est menacée de mort par des sécessionnistes. En effet, un mouvement séparatiste menace de faire éclater la cohésion qui régnait au sein de la République jusqu'à présent. Anakin accompagne Padmé dans un endroit à l'abri des menaces et une idylle naît entre les deux personnages.
Une ?
Quoi une ?
Vous dites une idylle, c'est quoi ça ?
Une idylle, une histoire d'amour si vous préférez.
C'est plus clair.
C'est moi qui raconte ou quoi ?
Oui.
Ok, donc je fais ce que je veux.
Oui, mais...
Flûte ! Pendant ce temps, Obi-Wan enquête sur les séparatistes et apprend qu'une armée de clones a été commandée par un de ses prédécesseurs pour protéger la République contre ses ennemis. Ses investigations le mènent vers un repère de séparatistes où il est fait prisonnier. Padmé et Anakin vont aller le secourir et se font capturer à leur tour.
Oh, les branques!
Mais sérieux?
Bah quoi, la gueule du sauvetage! Et puis d'abord, pourquoi ils vont le sauver alors qu'ils ne sont que deux et que les autres doivent être beaucoup plus nombreux?
Ça a un nom, la loyauté. Obi-Wan a sauvé Padmé, elle veut lui rendre l'appareil. Les trois comparses sont sauvés in extremis d'une exécution publique par l'armée des clones.
C'est pratique, ça.
À la fin de cet épisode, Padmé et Anakin se marient en secret.
Bah pourquoi?
L'attachement et donc l'amour est proscrit chez les Jedi.
Comme pour les religieux?
Pas complètement. Ils peuvent faire preuve d'empathie, mais ne peuvent aimer. Cela pourrait créer la peur de perdre ce à qui ou à quoi ils sont attachés. La peur mène à la colère, qui mène vers le côté obscur de la force.
C'est un peu simpliste.
Peut-être, mais c'est pas moi qui ai écrit Star Wars.
Ouais, je confirme.
Mais par contre, c'est moi qui peux vous faire sortir du studio à coup de pompe dans le train.
Ah, c'est bon, soyez pas si susceptible.
Je suis susceptible si je veux. Parce que ça fait déjà une plombe que j'essaye d'enregistrer mon émission, donc si vous permettez, j'aimerais continuer tranquillement.
D'accord, allez-y, je dis plus rien.
Si seulement. Donc, j'en étais où, moi?
Moi, je sais.
Bon, ok, allez-y.
Padmé, Anakin et Obi-Wan sont sauvés par l'armée des clones.
Oui, merci. Mais il y a une question.
Ah bon?
Bah, pourquoi avoir décidé de s'équiper d'une armée qui demande du temps pour être créée, alors qu'au moment de la commande, elle n'a pas de justification?
Bah oui, tiens.
Il semble que quelqu'un a préparé son coup bien en amont. Il semble avoir un but bien précis.
Et on sait qui c'est?
Bientôt, au cours de l'épisode 3, la revanche des Sith.
Ah!
Au cours de cet épisode, le mouvement séparatiste prend de l'ampleur et de nouveaux ennemis apparaissent. Anakin est de plus en plus troublé par des cauchemars. Il y voit Padmé mourir et il ne peut le supporter. Il va alors verser dans le côté obscur de la Force, guidé en cela par le chancelier Palpatine, chef du Sénat Galactique, qui se révèle être un seigneur Sith.
Un Sith?
Les Jedi représentent le côté lumineux de la Force, les Sith le côté obscur. Pour faire simple, c'est un peu comme l'opposition magie blanche-magie noire.
Et pourquoi la revanche?
Ils ont pris une tôle avec les Jedi. Ils ont fait profil bas pendant un moment, tout en organisant ce qui arrive depuis l'épisode 1, y compris la création d'une armée clone.
C'est Palpatine le taulier, alors?
Oui, et il décide de faire exécuter les Jedi par son armée. Seuls quelques-uns survivront, dont Obi-Wan, qui va se battre contre Anakin et le blesser gravement, au point que pour survivre, il devra porter une combinaison pour le reste de ses jours.
Sérieux?
Ouais, tout à fait. Et cette combinaison, vous la connaissez déjà. Même sans avoir vu Star Wars, vous l'avez déjà vue.
Ah ouais?
Allez, écoutez ça.
Mais c'est Dark Vador!
Tout juste. Mais avant d'affronter Obi-Wan, Anakin slash Dark Vador a rejeté Padmé, sa femme, et cette dernière meurt en donnant naissance à leurs deux enfants. Une fille et un garçon. Cette double naissance restera longtemps un secret.
Pourquoi?
Pour éviter que Dark Vador et l'empereur Palpatine ne mettent la main dessus, et en face des Sith eux aussi. Imaginez le potentiel des enfants de l'ancien Jedi parmi les plus puissants.
Ça se tient.
L'histoire reprend plusieurs années plus tard, 19 pour être précis, avec l'épisode 4.
Celui avec Leia et Dark Vador.
Eh oui.
Ah, c'est pas trop tôt.
Quoi?
Vous en avez mis du temps pour y arriver.
Je vous rappelle que je fais une émission pour expliquer la saga Star Wars. Ça demande du temps et de la pédagogie.
Vous, de la pédagogie?
Mais tout à fait. Et ça irait plus vite si j'étais pas interrompu tous les 30 secondes.
Voilà, ça va être de ma faute.
Mais oui.
Bon, allez, continuez, sinon ça va durer des plombes et je vais encore avoir le droit à vos réflexions.
Et comment? Et tant qu'on y est, le fait que vous la boucliez, c'est envisageable ou c'est perdu d'avance?
Je vous avais dit que j'avais des questions.
Ok. Donc, l'épisode 4 raconte les aventures de Luke Skywalker qui veut rentrer dans la Résistance face à l'Empire Galactique de Palpatine. Il va y parvenir un peu par hasard avec l'aide d'un certain Obi-Wan Kenobi.
Ah mais oui, c'est vrai, parce qu'il était là pour veiller sur lui.
Et la rencontre se fera par le biais d'un robot, R2-D2.
Oh, R2-D2, il est trop mignon.
Ouais. Ils vont alors décider d'aller sauver la princesse Leia et pour ça ils vont faire appel à un équipage de contrebandiers. Han Solo et Chewbacca, et s'enfuir à bord de leur vaisseau, le Faucon Millennium. Et ils vont la sauver, par hasard aussi. Il la retrouve à bord de l'Étoile Noire, un vaisseau spatial gigantesque qui a la forme et la taille d'une petite planète.
Ouais, au fait, j'ai une question au sujet de l'Étoile Noire.
Ah, ça faisait longtemps.
Vous avez un mauvais fond, vous le savez.
La question ?
Oui, le vaisseau a la forme d'une planète. On voit lors d'une séquence le Faucon Millenium y rentrer au niveau de ce qui semble être l'équateur.
Oui.
Dans la dernière partie du film, les X-Wings survolent l'Étoile Noire comme s'ils le feraient pour une planète classique. Donc c'est rangé comment à l'intérieur ? Un coup, on dirait les ponts d'un bateau les uns au-dessus des autres, et le coup d'après, on est à la surface comme sur Terre. Comment ils font pour passer des niveaux intérieurs vers l'extérieur ? Ça doit être un sacré bordel.
Bah, c'est-à-dire que...
Bah oui, vous ne savez pas.
Bah là, non.
Oh, la gueule du spécialiste de Star Wars.
Je suis pas ingénieur en structure spatiale, moi. Comment voulez-vous que je sache ça ? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question ?
Vous auriez pu être un peu plus curieux et vous renseigner.
Promis, la prochaine fois que je croise un membre du Centre National d'Études Spatiales, je lui demande.
Et puis, de toute façon, l'Étoile Noire, elle explose à la fin.
Bon, ça va ? Racontez le film à la place tant que vous y êtes.
Ouais, c'est bon, je spoile pas. Il est plutôt jeune, ce film.
D'accord, mais c'est mon émission, c'est moi qui raconte.
Le melon du gars.
Bref. L'Étoile Noire explose donc à la fin de l'épisode 4 et on passe ensuite à l'Empire Contre-Attaque. Le film commence sur la planète Hoth où se trouve un bastion de la Résistance menacé par l'armée de l'Empire.
C'est marrant.
Quoi ?
La planète Hoth, elle est recouverte de glace ?
Oui. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?
Ben, elle est gelée et elle s'appelle Hoth, qui veut dire chaud en anglais.
Vous avez quel âge ?
Oh, si on peut plus rire !
Une fois la planète évacuée, Luke part sur Dagobah pour parfaire sa formation de Jedi et rejoint pour cela un maître Jedi, Yoda. De leur côté, Leia et Solo tentent péniblement de fuir des vaisseaux de l'Empire. Ils doivent réparer le Faucon Millenium et se rendre sur Bespin, dans un complexe dirigé par un ami de Solo. Mais l'ami en question, Lando Calrissian, leur a tendu un piège, forcé en cela par Dark Vador.
Bravo le soi-disant ami.
Vous auriez fait un autre choix ? Laisser un ami se faire capturer ou voir tout ce que vous avez créé être réduit à néant ? Sachant que c'est un peu comme l'Est sauvage, c'est la loi du plus fort.
Et vous auriez laissé faire ?
C'est pas tranquillement assis à cette table que je vais dire ce que je ferais dans cette situation. Une fois au pied du mur, on ne sait pas comment réagirait.
C'est quand même dur à avaler.
Je dis pas le contraire. Mais toujours est-il que Lando ne va pas tarder à se rebeller. Pendant ce temps, Luke ressent un trouble et perçoit que Leia et Solo sont en danger. Il se porte à leur secours et va vite se retrouver face à Dark Vador. Au terme de l'affrontement, au cours duquel Luke perdra une main, Dark Vador va lui faire une révélation.
Luke, je suis ton père.
Non mais sérieux.
C'est quand même la phrase culte de Star Wars.
Oui, mais moi je préfère l'original.
Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. Tu ne peux pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te tuer. Luke, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié, et je terminerai ta formation. Si nous associons nos forces, nous mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
Je ne serai jamais votre allié.
Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non. Je suis ton père.
Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible.
Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Détruire l'empereur. Il l'a prévu. Tel est ton destin. Sois mon allié et ensemble, nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. pas d'autre issue.
Oui, je peux pas lutter. Ouais.
Luke parvient à s'enfuir et retrouve ses amis, ainsi qu'une nouvelle main robotique. L'épisode 5 se finit sur une vue de la flotte de la Résistance qui augure d'un combat épique dans l'épisode 6, le retour du Jedi.
Où il y aura encore une étoile noire.
Oui, ceci près qu'elle est nommée Étoile de la Mort.
C'est comme l'épisode 4 en fait.
Pas tout à fait. Au début du film, il faut d'abord libérer Han Solo, prisonnier de Jabba le Hutt. Ensuite commence le parcours pour détruire la nouvelle étoile.
Et qu'est-ce qui change ?
L'étoile de la mort est protégée par un champ de force, émis depuis une planète autour de laquelle elle est en orbite, la planète Endor. Il faut d'abord couper le champ de force pour attaquer l'étoile, mais bien évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu.
Ouais, sinon le film est fini au bout de 45 minutes.
Ouais, il y a de ça. Les infos que la Résistance a recueillies au sujet de l'étoile de la mort ont été intentionnellement diffusées pour attirer la flotte de la Résistance dans un piège. En parallèle, Luke se constitue prisonnier auprès de son père dans l'espoir de le faire revenir vers le côté lumineux de la Force. On voit alors deux combats menés de front, celui des vaisseaux rebelles contre la flotte impériale et celui plus intime d'un fils qui essaye de faire revenir son père à la raison, malgré les assauts de l'Empereur. Finalement, le champ de force est désactivé, l'étoile de la mort détruite et l'Empereur tué par un Dark Vador qui semble revenir vers le côté lumineux de la Force.
Le côté lumineux ou l'instinct paternel ?
Libre à vous de choisir. C'est peut-être un mélange des deux.
Bon, alors, la suite.
Vu que les trois derniers épisodes sont récents, je ne vais pas les détailler autant que les précédents. Dans l'épisode 7, nous sommes 30 ans après le 6. L'Empire est détruit, mais de ses cendres a émergé le Premier Ordre, bien déterminé à disloquer la Résistance et la Nouvelle République. Une personne est recherchée par tous les protagonistes, Luke, qui semble être le seul capable à contrer le Premier Ordre.
Et pourquoi il a disparu ?
Après la chute de l'Empire, il a monté une école de Jedi. Mais un de ses élèves a rejoint le côté obscur de la Force, et il ne l'a pas supporté.
C'est un peu facile, un gamin part en sucette et hop, il va bouder dans son coin.
Quand on sait qui est l'élève en question, on peut le comprendre.
Et c'est qui ce gazier ?
Je ne vais pas tout dire, je vais laisser un peu de suspense. Toujours est-il que beaucoup de personnages sont embarqués dans cette recherche. Entre autres, un pilote de X-Wing, un ancien soldat du Premier Ordre et une jeune femme pilleuse d'épave qui vit sur Jakku.
Bon alors, on le retrouve Luke ou pas ?
Oui, à la toute fin du film.
Ah quand même !
Bah, vu qu'il apparaît dans l'épisode 8, je suis bien obligé de le dire.
Oui et donc, l'épisode 8, ça donne quoi ?
Pour faire court, il s'agit d'une course-poursuite entre ce qui reste de la flotte de la Résistance et celle beaucoup plus puissante du Premier Ordre. Mais on y voit des personnages qui se rendent compte de l'étroitesse de la séparation entre les côtés lumineux et obscurs de la Force. Et que le moindre choix, aussi subtil qu'il soit, peut vous faire pencher d'un côté ou de l'autre.
Bon ok, et le 9 ?
Il s'agit de retrouver Exegol, la planète d'origine des Sith, pour savoir qui tire les ficelles depuis la chute de l'Empire et tente de faire revenir une nouvelle fois les Sith sur le devant de la scène.
On peut en savoir plus ?
Et non. Pour cela, il faudra attendre un petit peu. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro de l'émission, vous reprendrez bien.
Eh mais non, c'est pas possible ça, moi je veux savoir comment ça finit.
Pour un nouveau numéro de l'émission, vous reprendrez bien un peu de science-fiction.
Et est-ce que Jar Jar Binks, c'était un Sith ?